Vous écoutez France Inter, il est 19h. Le journal de Xavier Demagny, bonsoir.
Bonsoir Jean, bonsoir à toutes et à tous. Un prêtre orthodoxe est entre la vie et la mort ce soir à Lyon. Un homme lui a tiré dessus alors qu'il fermait les portes de son église. La piste terroriste n'est pas privilégiée. On va se rendre sur place dans les prochaines minutes. Il s'appelait Sean Connery. Autre grand titre évidemment ce soir. L'acteur écossais, interprète célèbre de James Bond est mort à l'âge de 90 ans. Nous allons revenir sur sa carrière qui va bien au-delà de son personnage d'espion. Au sommaire également, entretien exceptionnel d'Emmanuel Macron à la chaîne Al Jazeera comme un signal d'apaisement envoyé au monde musulman. Et puis le rugby, la France a-t-elle encore une chance de remporter le tournoi des 6 nations? La réponse tout à l'heure avec Vincent Pellegrini. 19h10, la vie connectée de Christine Siméon. Comment motiver les jeunes filles pour qu'elles innovent dès le plus jeune âge et qu'elles rattrapent les garçons? Le temps de demain, de la pluie et du vent au nord, ce sera plus calme au sud. Bon samedi soir, bienvenue, c'est le journal de 19h.
France Inter.
Il avait 90 ans.
I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
Mythique interprète du plus célèbre des agents secrets britanniques, Sean Connery, est décédé aujourd'hui. L'acteur écossais avait joué avec Hitchcock, De Palma ou Spielberg, mais c'est donc le rôle de James Bond qui a guidé et marqué sa carrière, Jacqueline Pétrose. Et nous devions entendre le reportage de Jacqueline Pétrose qui nous raconte la carrière de Sean Connery. Jacqueline Pétrose que l'on n'entend pas pour l'instant, qu'on retrouvera peut-être un petit peu plus tard. Le souvenir de Sean Connery et les obsèques de l'acteur qui auront lieu dans l'intimité avant une commémoration dans quelques mois, une fois que le virus aura pris fin, dit la famille de l'acteur. France 2, par exemple, va changer sa programmation pour rediffuser demain soir James Bond contre Dr No et les diamants sont éternels. Et puis, je voulais aussi également vous indiquer le site de France Inter, franceinter.fr, pour tout savoir de Sean Connery si vous avez loupé une étape de son immense carrière. On va revenir dans un moment sur la carrière de Sean Connery juste après ça. 19h02 sur France Inter. Un prêtre orthodoxe a été gravement blessé par balle cet après-midi. Je vous le disais dans les titres, ça s'est passé à Lyon. Il était en train de fermer les portes de son église du 7e arrondissement, quartier Jean Massé, quand un homme lui a tiré dessus à deux reprises avec un fusil de chasse à canon scié. Le prêtre est dans un état inquiétant. Sa vie est menacée. L'auteur, lui, est toujours en fuite. Mathilde Imberti, vous êtes à Lyon. Et Mathilde, le quartier est complètement bouclé. Mathilde Imberti n'est pas en direct avec nous de Lyon. Une enquête a été ouverte par le parquet pour tentative d'assassinat. Et donc, après la tentative d'assassinat de ce prêtre grec orthodoxe blessé par balle dans le 7e arrondissement de Lyon, on y reviendra, je l'espère, un peu plus tard dans ce journal. À Nice, un quatrième homme est en garde à vue après l'attaque de la basilique Notre-Dame jeudi. Il s'agit d'un Tunisien de 29 ans qui aurait, là encore, côtoyé l'assaillant. Dans ce contexte de menaces terroristes extrêmes, Emmanuel Macron s'est exprimé cet après-midi sur la chaîne qatarienne Al Jazeera, sans doute l'une des plus regardées au Moyen-Orient et au Maghreb. 55 minutes d'entretien autour des attentats, des manifestations et du boycott de produits français, des caricatures de Mahomet ou bien de la crise avec la Turquie. Bonsoir Éric Biégala.
Bonsoir Xavier.
Clairement, le chef de l'État a voulu envoyer un signe clair au monde musulman, remettre les choses à leur place, Eric.
Oui, c'est en fait une véritable petite explication de texte qu'a entrepris le président français, notamment autour des caricatures que le président de la République avait dit ne pas vouloir empêcher, ce qui a souvent été compris ou traduit comme s'il avait promis de les encourager. Emmanuel Macron a voulu réexpliquer que le rôle du président de la République en France, c'était de garantir le droit, celui de débattre, de discuter, de publier et de caricaturer.
Mais il y a deux choses que je ne peux pas accepter. La première, c'est la confusion qui a été entretenue par beaucoup de médias, parfois des dirigeants politiques et religieux, qui consisterait à dire que ces caricatures sont en quelque sorte le projet ou l'émanation du gouvernement français ou du président de la République. Non. Moi, je suis là pour préserver ce droit. Et je le préserverai toujours. Mais il y a des gens qui l'exercent. C'est ainsi. Et la deuxième, c'est qu'on puisse justifier, de manière directe ou indirecte, quelques violences au nom de cette réaction. Je ne suis pas spécialiste de théologie, mais je n'ai pas compris que l'islam légitimait ou soutenait le recours à quelque violence que ce soit. Et donc, je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures.
Le président français a d'ailleurs voulu considérer que ceux qui, parmi les dirigeants, s'étaient fait les avocats plus ou moins explicites de ces violences avaient d'une certaine façon franchi une ligne rouge, défendant non plus l'islam, mais bien l'islamisme, l'extrémisme religieux.
Éric Biégala, merci. Je vous parlais donc de ce prêtre orthodoxe gravement blessé par balle cet après-midi à Lyon. Nous avons retrouvé Mathilde Imberti. Vous êtes donc à Lyon, dans le quartier Jean Massé, le quartier qui est actuellement bouclé, Mathilde.
Oui, le quartier est bouclé, enfin disons l'îlot assez résidentiel où se trouve l'église orthodoxe. L'église est encerclée de plusieurs immeubles récents dans ce quartier lyonnais. Les gens peuvent rentrer chez eux en montrant leur carte d'identité. C'est ainsi que ça se passe. C'est un peu la stupéfaction ici. On est arrivé en entendant parler effectivement des blessures de ce prêtre orthodoxe. Alors les éléments que nous avons ici, eh bien, c'est qu'il faut être très prudent. Pas de piste terroriste privilégiée à ce stade. La police judiciaire de Lyon reste saisie de l'affaire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que le tireur est en fuite. Il y a eu deux tirs qui ont été entendus vers 16h et le prêtre orthodoxe se trouve entre la vie et la mort. J'ai discuté avec des fidèles de cette église orthodoxe. C'est une église qui est fréquentée par des Grecs, qui est fréquentée par les Arméniens, qui est fréquentée par les Géorgiens également. Une petite église où en règle générale, à chaque messe, à peu près une centaine de fidèles se réunit. Ils sont tous évidemment ce soir dans l'interrogation et également inquiet puisque le tireur est toujours en fuite.
Mathilde Imberti en direct de Lyon, merci beaucoup. Je rappelle donc une enquête ouverte par le parquet de Lyon pour tentative d'assassinat, pas de motif terroriste. Au-delà de la menace terroriste, le gouvernement est tiraillé sur la question sanitaire et économique. Comment inverser la courbe des contaminations? Comment rassurer en même temps les petites entreprises et les commerces non essentiels qui ont dû fermer avec le reconfinement? Comment éviter enfin la fronde des maires qui autorisent malgré tout, avec des arrêtés municipaux, les ouvertures de ces boutiques? Bruno Le Maire va tenter une nouvelle fois de désamorcer la situation ce soir aux 20h de France 2. Mais voilà une équation difficile à résoudre, Yael Gauze.
Quand Bruno Le Maire prend la parole mardi en Conseil de défense, il met en garde contre les fermetures de commerce. Car la différence avec le premier confinement, c'est bien la question du consentement. Et ce qui était redouté ces produits, à ouvrir la boîte de Pandore des dérogations, eh bien tout le monde crie à l'injustice. Alors l'exécutif peut-il reculer? Non, car le signal serait désastreux. À quoi bon respecter la règle? Redoute un conseiller. Mais ne rien concéder, c'est aussi prendre le risque de faire monter en pression la cocotte minute sociale. Petits commerçants en colère et gilets jaunes, même combat, s'inquiète un cadre de la majorité. Jean Castex, qui revendique la marque des territoires et du bon sens, est-il aujourd'hui en porte-à-faux? Ce confinement, répond Matignon, nous voulions l'éviter. Oui, il crée des injustices. Oui, c'est difficile pour tout le monde. Mais les chiffres sont terribles. Un Français contaminé toutes les 2 secondes et un mort Covid toutes les 4 minutes. Face à cela, l'attitude des maires qui prennent des arrêtés contraires est jugée irresponsable. Ce sont les mêmes, soupire un conseiller, les mêmes qui hurleront quand les hôpitaux seront saturés. Bercy promet d'aider massivement, jusqu'à 10 000 euros par mois pour un libraire, 6 fois plus qu'en mars. Clause de revoyure dans 2 semaines, mais d'ici là, peu de chances que la situation sanitaire s'améliore.
La politique de l'autre côté de l'Atlantique, à présent, 3 jours avant la présidentielle américaine, série de meetings dans 2 États clés pour les candidats. Donald Trump est en Pennsylvanie, il doit encore enchaîner 4 réunions aujourd'hui. Et puis Barack Obama accompagne Joe Biden dans le Michigan. À propos des élections aux États-Unis, un rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi. Notez la nuit américaine sur Inter avec nos envoyés spéciaux aux 4 coins du pays et de nombreux invités autour de Fabienne Sintès. Les États-Unis encore et le coronavirus. Près de 100 000 cas de contamination en 24 heures, c'est un record. En Europe, la réponse face à la reprise de l'épidémie, c'est un peu partout le reconfinement. L'Autriche, la Belgique, la Grèce se reconfinent. Le Royaume-Uni aussi, Boris Johnson doit annoncer ce soir de nouvelles mesures plus restrictives. Le Portugal également doit annoncer de nouvelles restrictions. Inaugurer un aéroport au milieu d'une crise sans précédent pour le transport aérien, c'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing. Nous sommes à Berlin, aéroport international Willy Brandt, du nom de l'ancien chancelier artisan du rapprochement entre RDA et RFA dans les années 70. 2 avions ont pu atterrir cet après-midi pour la première fois sur ces pistes. Entrée en service officiel avec, ne sursautez pas, 9 ans de retard. En Allemagne pour Inter, Ludovic Piétenu.
Ça aurait dû être un jour de fête, un jour tant attendu. 14 ans après la pose de la première pierre, nous aurions dû être en 2012, sans pandémie de coronavirus, à l'heure où le trafic aérien explosait, et non comme aujourd'hui qui chute de 66% en un an. Le hall de ce nouveau terminal 1 paraît bien vide, il n'impressionne même pas les quelques curieux. Nous sommes un peu déçus, dit Gabi, venue avec Klaus, un couple de retraités de la région. On en a vu des aéroports dans le monde, mais alors celui-là, ajoute son mari, il n'a vraiment rien d'exceptionnel, c'est très quelconque, nous ne sommes pas contents. En lieu et place d'une foule de passagers, on trouve des manifestants pro-climat. Nous demandons que cet aéroport déjà désuet soit transformé en musée du capitalisme des énergies fossiles et symbole d'une mobilité d'un autre temps, dit Lena Touknak, cette militante. Ce nouvel aéroport a coûté 3 fois plus que prévu, peut-être 4 voire 5 fois plus. Les travaux ne sont toujours pas complètement terminés. Pour l'heure, la facture s'élève pour le contribuable allemand à plus de 6 milliards d'euros. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Fin d'une journée de vote en Côte d'Ivoire. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dans un contexte de forte tension. Le coup d'état électoral du président sortant Ouattara a été un échec, estime ce soir l'opposition. 19h11, c'est l'heure de la vie connectée, comme toutes les semaines dans le 19h du samedi. Cette semaine, une belle initiative positive en ces temps de morosité ambiante. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir Xavier.
Au milieu de tout ce climat, vous nous parlez créativité ce soir. Un concours pour inciter les jeunes filles à innover dès l'âge de 7 ans et jusqu'à 18 ans. Concours autour de projets numériques et technologiques.
Oui, je vous parle du prix Margaret. Il distingue les femmes porteuses de projets numériques répondant aux grands enjeux sociétaux.
Margaret, Christine, c'est en référence à l'ingénieure Margaret Hamilton, directrice pendant de nombreuses années du département génie logiciel au sein du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts. C'est elle, par exemple, qui a conçu le système embarqué du programme spatial Apollo pour atterrir sur la Lune.
Oui, Margaret, à cette époque, avait moins de 25 ans. Elle avait un diplôme de mathématicienne et on lui a confié des missions avec des enjeux colossaux. Aujourd'hui, le prix Margaret s'ouvre aux fillettes et devient Margaret Junior. Il s'ouvre aux adolescentes et c'est en partie pour leur montrer que tout est possible, qu'elles ont leur place dans le monde de la technologie. C'est ce que dit en tout cas Delphine Rémy Boutang, qui est à l'origine de cette initiative.
Ce prix, il a pour vocation de révéler la future génération qui changera le monde. Rien que ça. Je crois qu'on a besoin d'une nouvelle vision, de nouveaux leaders. Et ces jeunes filles, il faut leur dire très tôt qu'elles sont capables et qu'elles ont toutes ces possibilités en elles.
Alors, qu'est-ce qu'on gagne, Christine, dans ce prix Margaret Junior ?
Alors, les jeunes filles pourront déposer leurs idées à partir du 6 janvier et le jury se réunira le 12 février. Mmh. Là, elles ont donc 2 mois pour mettre au point leur dossier, imaginer un jeu, un logiciel, une application. Et si elles gagnent, elles obtiendront des bourses et surtout un accompagnement pour faire aboutir leurs idées. Les femmes, Xavier, ne sont que 33% dans les effectifs du numérique. Mmh. Toutes catégories confondues. Elles occupent essentiellement des fonctions de support. Elles ne sont que 12% dans la filière du big data et de l'intelligence artificielle. Alors pour Delphine Rémy Boutang, il faut donner le signal aux filles dès le plus jeune âge, leur dire qu'on a besoin de leur vision.
Aujourd'hui, il faut plus de femmes dans le numérique parce qu'elles pensent les services et les besoins différemment. Et moi, ce que j'ai envie de dire pour les jeunes filles aujourd'hui qui pensent qu'elles ne peuvent pas en avoir un impact sociétal dans le numérique, je leur dis que si, justement, et que tous ces métiers-là, c'est maintenant qui se créent et qui s'inventent et qu'on a besoin de leur vision.
Alors, le concours est ouvert aux jeunes filles d'Europe et d'Afrique.
Voilà une très très belle initiative. Merci beaucoup Christine Siméon. Toutes les infos pour s'inscrire à ce concours, participer, c'est évidemment sur le site d'Inter. Chose promis, avant d'évoquer le rugby, je vous propose de réentendre ce générique si célèbre. Celui de James Bond, célèbre agent secret britannique. Pour rendre hommage ce soir à Sean Connery, l'acteur écossais est décédé aujourd'hui à 90 ans. Il avait joué avec les plus grands. Mais c'est donc le rôle de James Bond qui a guidé et marqué sa carrière, Jacqueline Pétrose.
En fait, Ian Fleming voulait Gary Grant pour James Bond. Après le premier film, le romancier reconnaît James Bond, c'est lui. Sean Connery sera 6 fois l'espion de Sa Majesté, puis reviendra après 12 ans d'interruption sous le titre irrévocable « Jamais plus jamais ». Mais Sean Connery, c'est aussi un nombre impressionnant de grands rôles. L'homme qui voulut être roi, La colline des hommes perdus, Indiana Jones et la dernière croisade, Pas de printemps pour Marnie, Les Incorruptibles avec un Oscar en 88. En 86, il est un moine franciscain du 14e siècle dans Le Nom de la Rose.
What kind of secret knowledge would he have been privy to?
et un gitan immortel dans Highlander.
Men will fear you. Try to drive you away.
L'enfant pauvre d'Édimbourg, au fort caractère et à l'humour corrosif, n'a jamais perdu son accent. Pourquoi faire, disait-il, en 2017 à la télévision britannique.
Je n'ai jamais réussi à perdre ce son, la musique de ce qu'est le parler écossais, parce que l'émotion devrait être la même un peu partout dans le monde. C'est ce que je crois. Un Russe, c'est comme un Écossais, c'est comme un Irlandais, un Polonais ou même un Anglais.
Anobli en 2006, farouche partisan de l'indépendance de l'Écosse, il avait reversé intégralement son cachet, des diamants sont éternels, $1 million, à l'aide à l'enfance de sa ville natale. Sean Connery ne tournait plus depuis 2010, il avait trois passions, sa femme Micheline, une Française, son Écosse natale et le golf.
Jacqueline Pétrose, le rugby, après 7 longs mois d'attente, la conclusion du tournoi des 6 nations. Victoire historique de l'Écosse au Pays de Galles tout à l'heure, 14-10. L'Angleterre joue la lanterne rouge chez elle en Italie. Pour l'instant, les Britanniques mènent 24-5. Il faudra pour les Français s'imposer très largement contre l'Irlande ce soir à 21h au Stade de France pour espérer soulever le tournoi, la coupe du tournoi des 6 nations.
La météo avec Bureau Vallée. Spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
C'est un classique, la France est coupée en deux demain, Jean-Michel Golinski.
Deux types de temps demain sur le pays, perturbé au nord, beaucoup plus agréable dans la moitié sud, avec pour tout le monde une extrême douceur. Les températures parties de 9 à 14 degrés vont culminer entre 17 et 20 l'après-midi du nord de la Loire au quart nord-est et généralement entre 20 et 24 plus au sud. En dessous d'une ligne, Nouvelle-Aquitaine-Bourgogne-Franche-Comté, le soleil va s'imposer une fois les brouillards dissipés. Bémol pour les littoraux méditerranéens où la grisaille va évoluer plus lentement. La moitié nord du pays va passer l'essentiel de la journée sous un ciel perturbé, pluvieux avec des pluies passagèrement plus fortes au nord de la Seine et des Pays de la Loire au sud de la Bretagne, le tout poussé par un vent de sud-ouest à près de 90 km par heure le long de la Manche, 70 sur le reste de la moitié nord du pays.
Aujourd'hui sur France Inter,
une heure en série. La seule émission de radio entièrement consacrée aux séries télé.
Samedi 20h, Xavier Le Herpeur.
L'une des séries de la semaine, c'est Possession sur Canal+, un thriller teinté de spirituel et de surnaturel.
On a une ressortissante qui a été arrêtée cette nuit.
Pour autant, la série aura-t-elle su ensorceler nos chroniqueurs?
Vous croyez comprendre, mais vous ne comprenez rien.
Une heure en série.
À suivre tous les samedis sur France Inter, à partir de 20h.
France Inter aime.
C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent. C'est le Café de la Gare. Un documentaire de Guillaume Meurice et Émilie Valentin. L'histoire de l'invention d'un lieu devenu culte.
C'était un théâtre libre, dirigé par des hommes et des femmes libres.
Des images d'archives inédites sur une troupe à l'humour ravageur.
Qui c'est qui a piqué le bout d'un horte que j'avais mis de côté?
Coluche, Miu Miu, Patrick Devers, Romain Bouteille, Sota, Henri Guibet sont racontés dans C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent. C'est le Café de la Gare. Ce soir à 22h25 sur France 5. Un partenariat France Inter.
France Inter, 19h18, toutes nos excuses pour ce journal très perturbé, ce sont des choses qui arrivent et heureusement pas trop souvent.